Vous écoutez France Culture.
Bonjour, les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff. Personnage, le grand Perret, est un héros de l'histoire de France, ou plutôt l'a été. Et c'est un personnage extraordinaire, parce que c'est à la fois un paysan, le seul pratiquement que nous connaissons individuellement, un combattant, un héros. Et il a désormais un très beau livre qui raconte son exploit, sa mémoire jusqu'au XXe siècle, et qui explique le milieu géographique et social dans lequel il a vécu, la région de Compiègne, dans l'Oise. L'auteur est une des grandes historiennes de l'histoire de France. Colette Beaune, professeur d'université honoraire, s'est intéressé dès le début de ses recherches et de ses écrits à l'histoire de la formation de la nation française dont on sait qu'elle remonte au Moyen-Âge. Et elle a d'abord écrit une très belle synthèse sur la formation de cette nation. Ensuite, elle a étudié en profondeur le personnage qui, depuis maintenant assez longtemps, symbolise cette naissance du patriotisme français et qui, évidemment, est Jeanne d'Arc, à laquelle elle a consacré deux livres superbes. Aujourd'hui donc, elle va nous parler de son nouveau héros, le grand Perret, un homme, un paysan. Le sous-titre, c'est « Premier héros paysan ». Le livre est édité aux éditions Perrin. Et pour discuter de ce personnage extraordinaire, qui choisir de meilleur que l'historien des paysans du Moyen-Âge, Mathieu Arnoux, dont vous vous rappelez sans doute qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons consacré une émission à sa présentation des paysans du Moyen-Âge, le temps des laboureurs, chez Albin Michel, et le grand Perret était, plus que n'importe qui, un laboureur médiéval. Je voudrais aussi m'associer à l'hommage que rend Colette Beaune à celui qui a été son maître, celui qui a été mon ami, quelqu'un dont nous avons aimé l'humanité et admiré la science et l'intelligence qui lui ont fait présenter l'histoire de la France à la fin du Moyen-Âge, 14e et 15e siècle, d'une façon nouvelle et solide, en même temps qu'il a défini la naissance de l'historiographie française au Moyen-Âge. Il s'agit de Bernard Guenet, auquel nous rendons tous les trois hommage.
Il existe un endroit fortifié assez remarquable dans une petite ville appelée Longueuil, vers Compiègne, dans le diocèse de Beauvais, assez près de Verberie, mais de l'autre côté de la rivière de l'Oise. Cet endroit dépend du monastère Saint-Corneille de Compiègne. Les habitants du voisinage s'aperçurent qu'il serait en grand danger si l'ennemi venait à en prendre possession. Aussi, après avoir demandé la permission à Monseigneur le Régent et à l'abbé du dit monastère, ils s'établirent dans ce manoir, munis d'armes et de vivres comme il convenait. Ils choisirent un capitaine parmi eux, avec l'agrément de Monseigneur, en lui promettant qu'il défendrait la place jusqu'à la mort. L'autorisation leur ayant été donnée, beaucoup de paysans des villages voisins s'y réfugièrent comme un lieu plus sûr. Ils choisirent parmi eux, comme capitaine, un homme de grande taille, de belle tournure, nommé Guillaume Laloux. Celui-ci avait pour valet un autre paysan d'une force et d'une vigueur étonnante, corpulent et de haute taille, d'une hardiesse égale à sa vigueur, qu'il menait comme il voulait. Malgré sa taille, il avait le sentiment de sa petitesse et de l'humilité de sa condition. On l'appelait le Grand Ferré. Jusqu'à 200 paysans s'y réunirent. Tous étaient des laboureurs ou des travailleurs gagnant de leurs mains leur humble vie. Les Anglais, qui étaient campés près de Creil et dans le château de Raymond, apprirent qu'ils étaient là, bien décidés à la résistance. Comme ils les méprisaient et tenaient pour rien, ils vinrent en se disant « Chassons ces paysans de cet endroit et emparons-nous de ce fort bien protégé et avantageux ». Ainsi fut fait, et pendant qu'ils s'avançaient au nombre de 1600, les autres, qui n'avaient rien vu venir, avaient laissé les portes ouvertes. Les Anglais entrèrent audacieusement dans la place. Ceux qui étaient à l'intérieur se mirent aux fenêtres, en voyant les Anglais bien armés demeurer stupéfaits de cette invasion. Le capitaine descendit aussitôt l'escalier avec quelques-uns des siens et se mit à frapper de ça, de là, mais il ne put pas faire grand-chose. Entouré de tous côtés, il ne tarda pas à être blessé mortellement. Ce que voyant, ses compagnons qui étaient encore dans les salles et le Grand Ferré lui-même dirent « Descendons et vendons-nous chèrement, sans quoi ces gens nous massacreront sans pitié. » Et, se rassemblant avec ordre, ils sortirent par des portes différentes, frappant de leurs bras puissants les Anglais. Ils se comportaient comme s'ils battaient le blé dans leur grenier, selon leur habitude. Ils levaient les bras en l'air et les abattaient si vigoureusement sur les Anglais qu'il n'y avait aucun coup qui ne fît une blessure mortelle. Or, le Grand Ferré, voyant son maître déjà mort, se mit à mener grand deuil et gémissement. S'approchant des Anglais, il dominait les ennemis et les siens de toute la hauteur de ses épaules. Élevant la hache, il multipliait les coups mortels, il frappait pesamment et de telle sorte qu'il faisait place nette devant lui. Il n'en touchait aucun si le coup portait de haut en bas, qu'il ne brisa son casque, fit jaillir la cervelle et ne le jeta mort sur le sol. À l'un, il brisait la tête, à l'autre le bras, et renversait à terre le troisième. Il se conduisit si bien qu'en une heure, à la première attaque, il tua de sa hache 18 ennemis, sans compter les blessés. À cette vue, ses compagnons frappèrent avec courage sur les Anglais. Qu'ajouterais-je ? Ils tombaient en si grand nombre devant eux, et surtout devant le Grand Ferré, que toute cette bande d'Anglais fut forcée de tourner le dos et de s'enfuir. Les uns, sautant dans les fossés pleins d'eau, se noyaient. Les autres, cherchant à fuir par la porte, chancelaient sous les coups de ceux de dedans. Le Grand Ferré arrivait au milieu de la place où les Anglais avaient fixé leur étendard, l'arracha en tuant celui qui le portait et dit à l'un de ses compagnons de le porter jusqu'au fossé, à un endroit où le mur, qui n'était pas encore terminé, laissait une ouverture. Le compagnon répondit qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait encore entre eux et le fossé une trop grosse troupe d'Anglais. Ce que voyant, le Grand Ferré dit « Suis-moi avec l'étendard ». Et le précédent, Il leva sa hache des deux mains avec force, frappant à droite, à gauche. Il s'ouvrit, grâce à son courage, un chemin jusqu'au fossé. Il étendit par terre un si grand nombre d'ennemis que son compagnon put facilement y jeter l'étendard. Après s'être reposé un moment, le grand ferré revint une seconde fois au combat et frappa de telle sorte sur les survivants que tous ceux qui étaient en mesure de tourner casaque s'empressèrent de prendre la fuite. Et c'est ainsi qu'en ce jour furent oxys, noyés ou couchés à terre presque tous les Anglais qui avaient pris part à cette entreprise avec l'aide de Dieu et du grand ferré qui, dans cette rencontre, à ce qu'on dit, abattit et tua plus de 60 ennemis.
Colette Beaune, l'histoire que vous venez d'entendre s'est passée en 1359. Et vous savez que le XIVe siècle n'a pas été un siècle de bonheur. Et c'est la première chose que je vais vous demander, Colette Beaune, si vous le voulez bien, de rappeler brièvement les malheurs du XIVe siècle.
Le XIVe siècle a été une période extrêmement difficile. D'abord, au point de vue climatique, beaucoup de pluie ou bien au contraire de sécheresse, donc des récoltes très aléatoires. Et puis, par ailleurs, des guerres qui accroissent les malheurs des temps, c'est-à-dire que les hommes en sont responsables autant que la météo. Et tout ceci en même temps avec de grandes épidémies, dont la plus connue, c'est la peste noire de 1348-49, qui tue en gros le tiers des Européens, et qui tue particulièrement justement dans cette région de Longueuil, qui est une route commerciale très fréquentée, et on peut mesurer les pertes dans le village même, et ils atteignent plus de 50%, c'est-à-dire des pertes affolantes. Donc, il faut se représenter une société qui, au départ, était une société parfaitement riche. On est dans les grandes plaines céréalières du bassin parisien. Nos paysans sont des laboureurs et ne sont pas des pauvres malheureux, mais qui vient d'être secoué très brutalement par l'épidémie, principalement, et par la guerre.
Arnoux, est-ce que vous vous réjouissez que nous ayons un beau livre sur le Grand Ferré, ou ce sujet vous paraît de seconde zone?
Alors, c'est une chance que nous ayons enfin un paysan qui porte un nom, qui a une date, qui a été, qui a un lieu de sépulture,
et qui a une maison,
qui a une maison, qui a une épouse. Ouais. Il présente enfin les caractéristiques pour un historien de la paysannerie de la réalité. Je dirais, c'est l'une des beautés de ce livre que de mener de front deux analyses. Une première analyse disant il s'agit de quelqu'un qui a toutes les allures d'un archétype. C'est un géant. Et nous savons que nous ne croyons pas trop à l'existence des géants. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui existe, qui a non seulement une histoire, mais plusieurs histoires, plusieurs historiens, et qui, chose magnifique pour nous, se contredisent. Donc on a enfin, je dirais, de la chair à se mettre sous la dent, autre chose que des caricatures ou des légendes.
Ce Grand Ferré, dont le sous-titre du livre de Colette Beaune dit qu'il a été un héros. Ce caractère de héros, bien entendu, il le doit à l'exceptionnel courage dont il a fait montre et au fait qu'il en a fait montre contre les ennemis de la nation française en train de naître, justement, les Anglais. Mais M. Arnoux a aussi indiqué un autre aspect qui a favorisé la transformation du personnage un peu en héros mythique. C'est un géant.
Oui, c'est un personnage qui correspond à toutes les légendes qui circulent dans l'Oise, voilà, qu'on connaît par ailleurs. Hein, Charlemagne qui mange je ne sais combien de poulets à son repas. Hein. Un Gargantua, il y aura plus tard dans la même région. Autrement dit, c'est une région qui est familière des géants. Alors, des géants pas toujours très bons, mais ici, nous avons le thème du géant protecteur du village et qui va permettre la survie du personnage à travers les siècles de façon orale. Car si le texte qui a été lu tout à l'heure existe, il n'y a ensuite plus de texte du tout jusqu'au milieu du XVIIIe. Et pourtant, la mémoire ne disparaît absolument pas parce que l'histoire est racontée, déformée durant des siècles, durant 4 siècles. C'est tout à fait exceptionnel que l'oralité réussisse à transmettre ainsi 4 siècles durant une histoire.
Par ailleurs, vous indiquez bien que ce paysan qui représente cette catégorie, bien qu'il la représente d'une façon exceptionnelle, de paysans qui constituent près de 9/10 de la population à cette époque, en même temps, le texte qui nous le présente, dont vous nous direz un mot, qui est évidemment le texte d'un ecclésiastique, d'un Carme, mais il y a d'autres textes auxquels a fait allusion Mathieu Arnoux. Ce texte le présente au fond dans la catégorie dans laquelle le Moyen-Âge a divisé l'humanité. C'est le fameux thème des trois états qui apparaît à la fin de l'époque carolingienne, qui prend forme surtout au XIe siècle, avec en particulier un texte de l'évêque Adalbéron de Laon dans son poème au roi Robert le Bieux. Et ce qui est intéressant, c'est que le nom de cette catégorie, c'est, en latin bien entendu, laboratores, ce qui veut dire travailleur, et en même temps nous voyons que en dehors de ses exploits personnels, ce personnage est dans une catégorie qui, au Moyen-Âge, est en train de prendre une certaine importance et une certaine estime vis-à-vis des puissants. Alors, vous nous dites un mot sur les trois états?
Oui. Ceux qui combattent, ceux qui prient, et puis ceux qui travaillent, qui sont ceux qui nous intéressent en l'espèce, le mot « travailler » et le mot « travailler la terre » étant identiques. C'est au cours de l'époque féodale la façon très classique de présenter la société, parce que ça correspond aussi, pour une fois, à peu près aux réalités. Et donc, au XIIIe siècle, cette distinction est très évidente. Par contre, lorsque notre grand Ferré naît et lorsqu'il fait ses exploits, on est déjà au milieu du XIVe siècle et cette société idéale ne correspond plus trop à la société réelle. Par exemple, chacun de ces groupes est divisé en multiples groupes. Et c'est le cas en particulier des laboratores, les laboureurs. Notre paysan, bien sûr, il est laboureur, c'est-à-dire qu'il possède un train de culture et des bœufs pour le tirer. Il a une maison, il n'est pas pauvre, il a une famille. Oui, il est en même temps serf, très probablement. Et ça, c'est une chose un petit peu étonnante, enfin, pour nous aujourd'hui. On ne pense pas souvent que les serfs pouvaient occuper des offices de commandement dans la société paysanne. Or là, manifestement, l'abbaye lui a confié des responsabilités envers les autres paysans. Il est le premier valet de ferme de Guillaume Laloux, c'est-à-dire qu'il commande aux autres. C'est une figure d'autorité que ce paysan-là. Et on n'est pas du tout habitué à voir le paysan en figure d'autorité.
Oui, vous avez parfaitement raison, parce que je crois qu'on a trop considéré que la société féodale était définie par le droit strict, au lieu d'y voir un type de société, j'allais dire, sociale. Mathieu Arnoux, je suppose que cette référence vous convient. Vous avez appelé votre beau livre « Le temps des laboureurs », et eh bien, quel meilleur laboureur possible que le Grand Ferré.
Alors, le Grand Ferré, le texte, par cette espèce de violence tout à fait impressionnante, mais en même temps une espèce d'allégresse dans la violence, une violence libératrice, renvoie à une tradition qui a tout à fait rapport avec le thème des trois ordres, qui est que si on concède aux paysans la grâce d'être un ordre, c'est précisément pour réprimer la violence dont ils sont éventuellement les porteurs. Et ça, c'est un premier point. Et je pense qu'il y a là l'analyse de Colette Beaune va très au fond de toute l'extraordinaire complexité locale de cette société, parce qu'on est au bord de la jacquerie, mais pas dans la jacquerie.
Pas tout à fait.
Ceci dit, le texte raconte une histoire de paysans qui se mettent à massacrer des nobles. Ouais. Donc, c'est une révolte qui réussit.
Oui, mais c'est des nobles anglais. Et le fait que ce soit des nobles anglais, si je puis dire, c'est que tout leur sera pardonné.
Voilà, ce sont de mauvais nobles et ce sont de bons paysans. Mais il y a là-dedans un aspect rébellion de ces paysans, d'ailleurs que certains textes
Certains textes sont plus nets que celui-là dans l'aspect rébellion. Mais même dans celui-là, dans cette chronique dite de Jean de Venette, la présentation de la jacquerie une dizaine de pages plus haut et puis la présentation de la révolte du Grand Ferré sont construites exactement en parallèle, on peut décalquer les phrases les unes après les autres. Et donc, on voit bien qu'il y a un rapport entre les deux. Même si l'auteur semble dire, dans un cas, c'est mauvais, et dans l'autre, c'est bon. Mais enfin, il est très admiratif de la force paysanne par rapport à la faiblesse des nobles, efféminés et tout.
Enfin, sans nous y attarder, signalons malgré tout que la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e, voit dans la chrétienté une tendance à faire naître des héros de type populaire. Vous indiquez qu'il y a aussi Guillaume Tell en Suisse, qu'il y a Robin Hood, Robin des Bois, en Angleterre. Mais si vous le voulez bien.
Et c'est exactement à la même époque, le milieu du XIVe siècle, que le paysan devient à la fois un héros et éventuellement pourvu d'une capacité politique.
Absolument.
La Suisse deviendra une république paysanne.
Bien sûr.
Bon, chez nous, ça ne marchera pas.
Oui.
Mais bon, c'est impossible qu'il n'a pas évolué.
Absolument. Alors, revenons, si vous le voulez bien, au Grand Ferré et maintenant à son environnement, évidemment. La première institution qui frappe et que vous décrivez parfaitement, c'est la grande abbaye qui domine la région et qui est l'abbaye Saint-Corneille. Vous pouvez la présenter
Alors, c'est une abbaye très ancienne puisqu'elle remonte à Charles le Chauve.
Excusez-moi, 9e siècle.
Oui, 9e siècle. Oui. C'est une abbaye qui abrite un certain nombre de tombeaux royaux jusqu'au début du 11e, des Carolingiens principalement, mais Capétiens aussi.
Il y a eu trois sacres au royaume.
Oui, il y a eu trois sacres, il y aura des mariages, et à la fin du Moyen-Âge, c'est l'abbaye où l'on adoube les héritiers royaux. Donc ça a toujours une fonction politique, Saint-Corneille de Compiègne. Parce que c'est aussi un des endroits où il y a les plus belles reliques de France, puisque il y a le voile de la Vierge, il y a une partie de la Sainte Couronne, et donc c'est un endroit où on se sent protégé par Dieu et par le souvenir des empereurs passés.
Alors, l'une des choses, moi, qui m'a frappé, c'est la manière dont ressort à peu près à chaque passage, chaque épisode du livre, que c'est vraiment une région du blé. C'est une région qui, de ce point de vue-là, peut être considérée comme très précoce. C'est une région de spécialisation céréalière. C'est probablement l'une des régions qui approvisionne Paris. Et là, il y a des. En particulier, on découvre que la bourgeoisie de Compiègne est une bourgeoisie parisienne de marchands. Donc, c'est un point qui a une très grande importance dans la richesse du royaume, parce que c'est ce qui permet de faire le pain des Parisiens. Et de ce point de vue-là, je crois que pour nous, ça a une importance. Les paysans dont il est question ici sont des paysans riches, sont des paysans prospères. Et c'est la raison pour laquelle ce sont aussi des paysans bien portants, vigoureux, donc potentiellement dangereux sur le champ de bataille.
Et bien entendu, nous n'allons pas nous y étendre. Mais l'abbaye, le village où habitait le Grand Ferré sont proches du centre très important de la région qui est Compiègne. Ce village, l'Orgueil, vous pouvez dire quelque chose en dehors de ses habitants, qu'on venait d'indiquer qu'ils sont majoritairement des paysans aisés, sur les terres, sur les cultures, on voulait dire l'importance du blé, ce qui a, entre autres choses, non seulement une importance alimentaire, mais aussi une importance financière, parce que c'est la céréale qui se vend le mieux, non ?
Alors, c'est un très gros village qui a à peu près 1500 habitants, ce qui est gros pour un village médiéval. C'est un village qui possède une école, un hôtel Dieu, des maisons avec des sculptures. Ce n'est pas le village basique du tout. Et c'est un village dans lequel un certain nombre de personnes savent lire et écrire, puisque les derniers cueilloirs sont écrits par des fils de paysans du village. Et donc, on est dans la province de Reims, qui est une des provinces où les écoles primaires ont été les plus précoces. Et ici, on est en plus dans un temporel d'abbaye où, semble-t-il, l'abbé est très soucieux des écoles.
Et alors, vous présentez, car c'est un des grands personnages de cette histoire, l'abbé qui vit un long abbatiat, justement à l'intérieur duquel se produit cet épisode du Grand Ferré. Cet abbé, c'est Ancéric de Signy, qui est abbé de 1334 à 1366. Et c'est quelqu'un pour qui, visiblement, vous avez de l'estime.
Oui, son successeur, par contre, je n'ai aucune estime pour lui. Donc c'est un abbé qui n'appartenait pas du tout à la petite noblesse locale. C'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs, il vient de Bourgogne. Il a été d'abord moine à Vézelay, et puis après il a été prieur dans la région parisienne. Et il a été choisi manifestement parce qu'il était capable de réformer une abbaye qui se portait pas très bien. Et il s'est avéré effectivement capable, d'un côté, de réformer l'abbaye, et aussi capable d'assumer ses responsabilités, en particulier la responsabilité des pauvres et de l'hôpital, ce qu'il a énormément, auquel il a consacré beaucoup d'attention et de temps. Et les hôpitaux, au milieu du XIVe siècle, période absolument catastrophique, c'est très, très important. Et en un sens, on a un abbé qui a désormais une abbaye qui n'a plus que 13 moines, alors qu'elle avait été conçue pour 100 chanoines à l'origine. Une abbaye très riche, mais qui n'a plus 13 moines, c'est vraiment très peu, même si c'est les apôtres et le Christ, symboliquement, ça peut être intéressant. Mais c'est trop peu. Il sait bien que plus ou moins, on accuse à Compiègne les moines d'être trop riches et trop peu nombreux, eh bien cet abbé va reconquérir une place dans la ville en montrant qu'il est capable d'assumer la responsabilité des pauvres, des malades, de la table Dieu, enfin bon.
Voilà. Et une donc de ces actions importantes, c'est une réconciliation.
Avec les bourgeois.
Avec les bourgeois, en 1345. D'ailleurs, les bourgeois aussi sont présents dans votre livre et vous montrez que les rapports entre paysans et bourgeois ne sont pas des rapports aussi antagonistes.
Pas forcément.
Une telle inégalité qu'on le penserait.
Oui, d'autant que là, on a des bourgeois qui ont des terres à la campagne, bien évidemment, et Longueuil, c'est pas très loin de Compiègne, et des paysans, le marché de Longueuil, c'est Compiègne, il n'y a pas de marché propre à Longueuil. Donc, il y a 3 jours par semaine de marché, ils viennent assez souvent en ville. Il n'y a donc pas de distinction si forte que ça. Et de même, à Compiègne, entre les bourgeois qui mènent une vie nobiliaire pour beaucoup, qui participent au tournoi, et les nobles qui entourent la cour, qui résident assez souvent au palais de Compiègne, il n'y a pas non plus une différence si grande que ça.
Et je pense qu'on peut ajouter que dans une paysannerie qui est très nombreuse, c'est une région densément peuplée, donc on peut imaginer, en particulier quand on voit l'importance de l'hôpital, qui a beaucoup de pauvres, donc de gens qui n'ont pas accès à la propriété de la terre et au fait d'avoir des animaux, etc., qu'en même temps, on a cette même proximité, c'est-à-dire que tous les gens qui apparaissent dans le récit, qui sont probablement des laboureurs, c'est-à-dire des gens qui ont un train de culture et qui ont un niveau de vie qui est un niveau de vie pas du tout négligeable, les textes nous les montrent comme des gens qui travaillent de leurs mains. En particulier, on est extrêmement frappé par le texte de Jean de Venette qui, semble-t-il, fait allusion au fait qu'ils sont descendus avec leur fléau. C'est-à-dire que ce sont des batteurs et que ça les rend très dangereux, mais ça veut dire que ce sont des gens qui travaillent réellement de leurs mains sur les épis et dans les champs.
Et alors, parmi tous ces gens-là, il y en a qui sont non seulement des paysans dont on a déjà parlé, mais qui appartiennent à cette catégorie très destructrice que l'on appelle dans les marges de la guerre de Cent Ans, les routiers. Et vous parlez de belles carrières de routiers.
De leur point de vue. De leur point de vue, ils ont fait de belles carrières, ils ont beaucoup pillé, ils sont parvenus en haut de la société. Parce que ce qui m'intéressait en gros aussi, c'était de donner de l'épaisseur à ce paysan qui est pratiquement le seul individu paysan que nous soyons capables d'identifier pour toute la période. Il n'y en a pas d'autres. Et en même temps, de donner de l'épaisseur aux routiers qui les avaient attaqués en cette fin d'été de 1359, dont finalement, à l'origine, je ne savais que le nom. L'anglais s'appelle Fotheringay, oui, oui. Et le navarrais s'appelle Sanche de Uriz. Et j'ai réussi à trouver qui étaient exactement ces gens-là, oui. Parce qu'ils sont payés, on a des soldes. Dans les archives de Pampelune, on a toutes les pensions touchées par Rodrigo Sanche de Uriz, qui finit par une carrière de diplomate et d'espion assez extraordinaire, et avant de mourir dans son lit, ce qui est à plus de 80 ans, ce qui est après tout pas logique vu la vie qu'il avait menée, et puis de l'anglais qui lui finit beaucoup plus mal puisqu'il se retrouve dans le procès de canonisation de Charles de Blois, un endroit où on ne penserait pas du tout le trouver. Il poignarde l'image de Charles de Blois et celui-ci se venge. 8 jours plus tard, notre anglais meurt d'une fièvre envoyée par le saint.
Oui, parce que la recherche précise et réussie que vous avez faite sur tous ces personnages a enrichi l'aspect social des participants à cette histoire qui rend ce livre, au-delà du Grand Ferré, un livre d'une très grande richesse.
Oui, je voudrais dire que Colette Beaune n'est pas adepte d'un lyrisme à la Michelet habituellement, Mais le chapitre qui est consacré à ce qu'il est d'usage de nommer les malheurs des temps est un chapitre qui transmet de manière extrêmement forte et pour moi, je dois dire, je continue à être impressionné ce que c'est que la succession des calamités et l'accumulation des calamités au cours du XIVe siècle. Et que, justement, cette analyse très précise des carrières qui se font dans la malfaisance au cours de cette période, je crois que c'est de ce point de vue-là, ça remet un petit peu à l'ordre du jour quelque chose peut-être nous avions tendance à oublier parce que nous n'aimons pas cette histoire malheureuse et que il y a vraiment de quoi réfléchir sur ce que c'est que cet enchaînement des cavaliers de l'Apocalypse.
Et puis souvent, on a tendance à penser que les malheurs des temps, ça touche surtout les grands qui meurent à la guerre, qui partent en prison. Mais on voit très bien, par les lettres de rémission de la région de Creil, que les malheurs des temps touchent le boulanger du coin qui se retrouve prisonnier, des gens de rien du tout et des gens qui pourront jamais payer rançon et dont toute la vie va être absolument bouleversée parce qu'un jour, ils ont rencontré un routier.
Parmi les malheurs de cette région, à l'époque du Grand Péret, il y a aussi une révolte paysanne et une répression de cette révolte, Jacquerie et contre Jacquerie.
Oui, alors c'est intéressant parce que je crois qu'il faut comprendre, enfin c'est mon point de vue, j'ai essayé de le montrer, que cette révolte ne cherche pas du tout à mettre la société complètement à l'envers ni à la bouleverser. Ils ne sont pas du tout contre l'ordre social. Au contraire, ils acceptent cet ordre social avec les trois États sans problème. Ils veulent simplement qu'à l'intérieur de chaque État, chacun fasse correctement son travail. Or, voilà que les nobles se font battre à la guerre, qu'ils ne protègent plus leurs paysans. Ils continuent à prélever des taxes et en échange de rien du tout, puisque la protection n'est plus donnée. Mmh. Et donc, alors que le paysan, lui, continue à travailler. Autrement dit, ils acceptent ce système à trois États, mais il faut que les clercs prient et que les chevaliers combattent et qu'eux puissent tranquillement travailler la terre.
Rappelons que pendant cette période, au cœur de cette période, tout près de l'épisode du Grand Péret, il y a eu le désastre de Poitiers en 1356 et la Jacquerie elle-même est de 1358. Dans les textes qui racontent les combats dans cette période, vous avez souligné un mot que l'on trouve dans l'une des trois versions que l'on possède, qui est patria.
Ah oui, c'est un mot qui, à l'origine, passe un peu inaperçu, mais c'est un mot qui, au XIXe, va au contraire être mis en valeur. Jean de Venette dit, effectivement, à la fin du texte, il mourut et tous ceux de sa patria le regrettèrent et le pleurèrent. Alors, en fait, il s'agit du pays, c'est-à-dire Rivecourt, oui. Peut-être Rivecourt et Longueuil, peut-être peut-on aller jusqu'à Compiègne, mais pas beaucoup plus loin. C'est son pays de connaissance, en gros. Donc, ça n'avait pas de sens patriotique lorsque le chroniqueur l'écrit. Mais lorsque Michelet et d'autres vont relire ce texte dans la première moitié du 19e, la patria, ça sera la patrie. Et ils vont faire quelqu'un du Grand Ferré, quelqu'un qui est mort pour la France, c'est le premier héros patriotique avant Jeanne d'Arc, 70 ans avant.
Oui. Je vous ai justement posé cette question parce que ça nous montre l'évolution du mot patria et à quel moment encore incoatif de la formation de la nation française on se trouve au milieu du XIVe siècle.
Patria, là, ça veut dire le pays, simplement. Ouais, ouais. Mais dans la même chronique, lorsqu'on dit « défendere patriam », ça veut bien dire « défendre le royaume », « défendre la patrie
oui. ».
Autrement dit, il faut regarder les mots qui sont autour oui. pour savoir quel est le sens exact.
Oui, oui. Et quand on parle d'anglais qui sont en fait des Espagnols et qui appartiennent au royaume de Navarre, donc qui sont potentiellement aussi des Français, là, il est clair qu'on désigne l'ennemi.
Voilà, ils sont globalement anglais.
Anglais au sens de l'ennemi, oui.
Eh bien, maintenant, venons-en à une partie importante de votre livre, à la fois par sa longueur et par sa signification, qui est la fortune du Grand Ferré. Le Grand Ferré a connu du milieu du XIVe siècle, où il a vécu et mort dans ces circonstances, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, des hauts et des bas de fortune. Vous pouvez dire à nos auditeurs l'essentiel de cette évolution, qui est toujours très intéressante, comme, à mon sens, toujours est la vision du passé qu'a une période.
Dans un premier temps, entre en gros 1359 et le milieu du XVIIIe, le Grand Ferré va être progressivement oublié, même si, comme on est dans une région de frontière où les combats contre l'ennemi sont relativement fréquents, il peut parfois ressurgir. Mais sa survie durant toute cette période est plutôt une survie orale et populaire. On n'en parle plus. On n'en a d'ailleurs jamais parlé dans Froissart, on n'en a jamais parlé dans les grandes chroniques. C'est un bien trop humble personnage. Ensuite, au milieu du XVIIIe, le père Carlier, qui écrit une histoire du Valois, raconte cette histoire en utilisant à la fois le texte de Jean de Venette, un texte, mais aussi ce qu'il a entendu raconter à la veillée autour. Et il dote pour la première fois le personnage d'un avant. Parce que dans Jean de Venette, on raconte surtout sa mort, mais que s'est-il passé avant? Et c'est là que, pour la première fois, apparaît l'idée que le Grand Ferré était d'abord un Jacques, qui ensuite est devenu un héros et un fidèle du roi.
Oui, l'œuvre de Carlier est essentielle.
Oui, parce qu'elle réinterprète complètement l'histoire. Peu de temps après, on considère que le patria en question, c'est la France, et que donc il est mort pour la France. On dit ça dès 1770. Et l'aspect patriotique, évidemment, va être encore plus souligné lorsque le roman national se forme au début du XIXe, c'est-à-dire que lorsque la République a besoin de héros, et elle a besoin de héros qui soient nés dans le peuple, elle n'a pas beaucoup de choix, parce que les héros nés dans le peuple avant la Révolution, il n'y en a pas tant que ça.
En tout cas, on ne les a pas connus.
Très, très peu de choix, oui, mais comme ils n'en savent rien, ils ne peuvent pas. Et donc, en gros, il y a les bourgeois de Calais, il y a le Grand Ferré, il y a Vercingétorix aussi, mais il n'y en a pas énormément. Donc, si l'on veut éliminer tous les héros nobles et tous les héros qui sont des rois ou des évêques, eh bien, il faut recourir au Grand Ferré ou à des personnages de ce type. Et c'est ainsi que Augustin Thierry, Henri Martin et puis surtout Michelet vont promouvoir le Grand Ferré devient l'image même du peuple, l'image même du Gaulois héroïque, autre Vercingétorix. D'ailleurs, dans les images, on le représente cheveux longs, moustache et Francis. La fameuse hache formait une Francisque, après tout, tout à fait présentable. Ça pouvait se faire. Et puis, Michelet va inventer, je trouve que ce n'est pas si stupide que ça, et loin de là, que la nation était née par degrés, progressivement. Il n'y avait pas de date de naissance de la nation. Là, je pense franchement qu'il a raison. Il n'y a pas de date comme ça qu'on puisse donner. Et donc, le Grand Ferré n'était pas Jeanne d'Arc. C'est pour des raisons évidentes. Il ne se battait peut-être que pour son village. Ça, Michelet avait bien vu. Il avait beaucoup massacré. Michelet est un des rares à le dire. Michelet sait lire un texte. Il a compris que derrière, il y avait un grand massacre. Ouais. Mais néanmoins, si imparfait qu'il soit, si brutal, il annonce autre chose. Il annonce Jeanne d'Arc 70 ans plus tard. Et Michelet, présent, dit que la nation est née en deux étapes, une au milieu du XIVe et une dans les années 1430. Et cette idée va être prise par Lavis et par tous les grands historiens, ce qui fait que ce qui explique le succès du Grand Ferré dans tous les manuels scolaires de la Troisième République, où il est un des personnages importants.
Oui. Monsieur Arnoux, qu'est-ce que vous pensez de cette fortune du
Grand Ferré ? Alors, j'ai été tout à fait passionné par l'analyse de Colette Beaune, qui, d'une certaine manière, permet de prendre la mesure du talent de conteur et du talent littéraire de Jean de Venette, qui arrive à fabriquer un personnage qui est un personnage que je trouve très intéressant, parce que, à la fois, s'il n'y a visiblement pas eu de version cinématographique de l'épisode, c'est que c'est inregardable, très probablement. Mais le récit donne un aspect étrangement pacifique de ce géant. C'est un géant bienveillant.
Oui, alors qu'en fait, c'est une histoire de sang et de mort absolument horrible.
Voilà, et donc là, on a affaire, et il est probable qu'il puise à des archétypes où ce personnage profondément bon et qui est du côté de la fonction de la fertilité, est en même temps quelqu'un qui est capable de crise de fureur tout à fait meurtrière. Et de ce point de vue-là, il rentre, il arrive jusqu'à Obélix, d'une certaine manière. Sa mort pourrait ressembler à celle de Porthos dans le Vicomte de Bragelonne. C'était, y a là un personnage qui est un personnage éminemment littéraire et ça pose le problème de, effectivement, comment a été constitué ce récit.
Alors, ce que vous venez de dire nous amène à l'énigme qu'à première vue présente le titre de votre dernier chapitre. Un petit village gaulois.
Un petit village gaulois, oui, parce que il est certain que ce village qui ne veut pas se rendre, qui est attaqué par les Anglais durant des années, qui se défend avec des armes de briques et de broc contre des soldats professionnels, normalement, ils auraient dû être vaincus, le village aurait dû brûler, ils auraient dû s'enfuir tous dans la forêt la plus proche. Je veux dire, c'est une totale anomalie, cette histoire. Et c'est ça qui m'a intéressée. Comment c'était possible ? Parce que je pense que c'est quand même vrai. Il y a une part de vrai là-dedans. Il y a la façon dont un très grand écrivain l'a enjolivé, l'a rattaché à des mythes locaux, ça c'est certain, mais il y a du vrai. Ils se sont battus, ils ont gagné. Oui.
On peut, au titre des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences, dire que c'est à quelques kilomètres de là, à l'Estrée-Saint-Denis, que à l'été 1789 naît l'une des grandes peurs paysannes, dont Georges Lefebvre avait montré que ce n'est pas une panique, mais que c'est une révolte face à une menace, et que on a affaire à nouveau à quelque chose qui est la rébellion contre une violence qui paraît inacceptable.
Eh bien, voilà une patria, une petite région de la France qui est portée grâce à des historiens de votre qualité, Colette Beaune, au premier plan de l'histoire de France. Cela commence d'ailleurs avec un grand chroniqueur, vous l'avez dit, Jean de Venette est un grand chroniqueur. Et le Grand Ferré, au fond, a eu, à côté du geste fatal de boire de l'eau glacée en étant transpirant, a eu la chance d'avoir un certain nombre d'historiens ou de personnes qui ont parlé de lui et qui lui assurent, sinon l'éternité, du moins une certaine longévité. Et en même temps, grâce à vous, Colette Beaune, on voit ce que peut être dans l'histoire ce personnage tout à fait passionnant qui est un combiné de personnages réels. Je dirais même très réel, et de personnages plus ou moins mythiques. Oui. Et au fond, est-ce que ce n'est pas là la vie intellectuelle de l'humanité et par conséquent une image fondamentale de l'historiographie. Alors, après avoir assisté au triomphe du Grand Ferré, nous allons, hélas, nous pencher sur son livre.
Après la bataille, le Grand Ferré, échauffé par le temps estival et par son labeur, but une grande quantité d'eau froide et la fièvre le gagna. Quittant ses compagnons, il revint chez lui avec son épouse dans un village appelé Rivecourt, dont il était originaire. Malade, il se mit au lit, tout en gardant près de lui sa hache ferrée, qui était si lourde qu'aucun autre homme ne pouvait la soulever au-delà de ses épaules à deux mains. Les Anglais apprirent la maladie du Grand Ferré et s'en réjouirent fort, parce qu'il n'osait plus rien faire nulle part tant qu'il était là. Craignant qu'il ne guérît, ils envoyèrent 12 compagnons chez lui pour l'étrangler. Quand sa femme les aperçut, elle courut vers lui, qui gisait au lit, et lui dit « Hélas, cher Ferré, ce sont les Anglais qui te cherchent, que vas-tu faire ?» Alors, ce héros, oubliant son mal et prenant sa lourde hache ou guisarme, avec laquelle il avait déjà frappé et blessé bien d'autres ennemis, sortit de la maison et les vit dans sa cour. Oh, « Larron, dit-il, que vous êtes venu me prendre au lit, mais vous ne m'aurez pas !» Il s'appuya contre un mur pour qu'il ne puisse pas l'attaquer par derrière et se défendit virilement avec sa grande hache et son courage habituel. Il l'entourait pour le capturer ou le tuer. Dans cet affrontement, il en blessa mortellement 5 qui tombèrent à terre, mortellement blessés. Ce que voyant, les 7 autres prirent la fuite. Après ce triomphe, il revint à son lit, éprouvé par les coups donnés. Il but encore abondamment de l'eau froide et la fièvre réapparut plus fortement. Peu de jours après, muni des sacrements de l'Église, il migra de ce siècle et mourut. Il fut enseveli dans le cimetière de son village. Tous ceux du pays le regrettèrent amèrement, car tant qu'il avait vécu, les Anglais n'avaient pas pu s'en approcher.
Colette Beaune, dans cette évolution de l'image de la fortune du Grand Ferré, où Michelet tient une place si importante, qu'en est-il d'un ouvrage dont on sait qu'il a eu sur les connaissances de beaucoup de Français une importance capitale, qui est le grand dictionnaire Larousse, qui date de quand
Entre 1863 et 1876, oui, suivant voilà. les volumes.
Alors, qu'est-ce que dit Larousse?
Alors, Larousse consacre 4 articles à l'histoire du Grand Ferré, pas un, 4. Il y a Grand Ferré, il y a Guillaume Laloux, il y a Jacquerie et il y a Angleterre, qui parle du Grand Ferré, donc 4 articles. Alors évidemment, c'est une présentation très républicaine, classique. Il utilise le père Carlier, à vrai dire, beaucoup plus que Michelet, c'est-à-dire que le Grand Ferré commence par être un Jacques avant de défendre sa patrie et le château de Longueuil. Ce qui est amusant aussi, c'est que c'est un récit très laïque. Je veux dire, on ne sait même pas que ça se situe sur une terre d'abbaye et que les éléments chrétiens sont quand même assez nombreux dans l'histoire. Larousse les a tous virés absolument, il n'y en a plus du tout. Et à la fin, il meurt par imprudence pour avoir bu trop d'eau froide. Larousse sait sûrement, mais il ne veut pas dire qu'il s'agit d'un... d'un épisode qui a un sens différent, puisque c'est la boisson de mort qui punit et fait mourir celui qui a péché, et le grand ferré a péché puisqu'il a fait massacrer tous les prisonniers anglais. Et Larousse sait sûrement, mais il ne faut pas, à cette époque-là, raconter
abîmer
l'histoire
l'image,
de ce genre,
oui.
Abîmer l'histoire. Et il raconte, donc c'est positiviste sa présentation, positiviste, laïque et républicain.
Dans ces quatre articles, vous venez de dire Angleterre. Vous indiquez par ailleurs dans votre livre qu'il y aurait eu sur l'histoire du Grand Ferré une influence du célèbre roman de Walter Scott du tout début du 19e siècle, Ivanhoe, que nous appelons habituellement Ivanhoe. Qu'en est-il?
Le Grand Ferré n'a jamais fait l'objet, contrairement à Robin des Bois, de films de ce genre, et il a fait l'objet d'un certain nombre de romans à la fin du 19e. Et ces romans, effectivement, sont très inspirés de Walter Scott, avec un château central qui est Longueuil, sous un autre nom, avec un seigneur qui est disparu à la guerre, qui a été prisonnier des Anglais, qui réapparaît et qui va réussir à reprendre sa place grâce à son serviteur qui est le Grand Ferré. Voilà.
Eh bien, curiosité que cet échange pacifique et littéraire entre un Français qui s'est battu contre les Anglais.
Et ce livre est illustré par Alphonse Muchat. C'est donc un superbe roman avec des illustrations
magnifiques. Que d'histoire autour du Grand Ferré. C'était les lundis de l'histoire par Jacques Legault, avec Colette Beaune, auteur de Le Grand Ferré, premier héros paysan chez Albin Michel, dont l'auteur a discuté avec Mathieu Arnoux, professeur à l'Université de Paris 7. Les textes ont été lus par Jean-Pierre Leroux, la prise de son est de Didier Sudan, la réalisation est de Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire seront présentés par Roger Chartier. Et dans quelques instants, C'est pas la peine de crier, par Marie Richaud.